20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. À la Veneziana, ainsi s'intitule le quatrième volume de l'intégrale de l'œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach, intégrale dans laquelle s'est lancé Benjamin Allard depuis plus de 4 ans. Un nouveau volume dédié à l'Italie, et tout particulièrement Vivaldi, qui ont tant influencé Jean-Sébastien Bach et l'ont conduit à donner au clavier une véritable dimension orchestrale. Benjamin Allard nous racontera cela ce soir puisqu'il est notre invité. Le temps de notre petit point quotidien sur l'actualité musicale. 7 mois après avoir été confronté à une polémique concernant la faible représentation de la diversité en son sein, le Metropolitan Opera de New York vient de nommer une responsable en charge de la diversité, justement, à savoir Marcia Sells, ancienne danseuse et diplômée en droit. Elle a occupé des postes importants dans différentes institutions, notamment les universités de Columbia et de Harvard. Et elle fut également procureure de district adjoint de l'État de New York. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alors que l'Opéra de Paris ménage encore le suspense quant au nom du successeur de Philippe Jordan, l'Opéra National de Lorraine vient d'annoncer la nomination de Marta Gardolinska au poste de directrice musicale, poste qu'elle occupera à partir de la saison prochaine. Son talent avait été unanimement salué lors de la création française de Georges le Rêveur de Zemlinsky à Nancy en octobre dernier. Marta Gardolinska, cette jeune chef polonaise de 33 ans, poursuit une carrière internationale qui l'a conduite à rejoindre l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles en tant que membre du Dudamel Fellowship Program et a dirigé plusieurs phalanges européennes comme le Scottish Chamber Orchestra, l'Orchestre de Chambre de Paris ou encore l'Orchestre Philharmonique de Varsovie. Elle devient donc la deuxième femme nommée à la tête d'un grand orchestre français après Deborah Waldman à Avignon. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un nouvel article de Philippe Gau. Autre toute récente nomination, celle de Fabien Armengo à la tête de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Il succédera à la rentrée prochaine à Olivier Schnebelli, son fondateur, qui en aura été le directeur musical et pédagogique pendant 30 ans. Et à cette direction s'adjoindra la résidence pendant 3 ans de la chef d'orchestre Emmanuel Haïm. Fabien Armengo occupe déjà le poste de chef assistant de la maîtrise du CMBV, et cela depuis plus de 20 ans. Dans une interview consacrée à Ars Musica, il ne manque pas de saluer le travail d'Olivier Schnebelli, tout en affirmant sa volonté de faire souffler un vent nouveau. J'ai beaucoup appris à ses côtés, j'ai tissé des liens privilégiés avec tous mes collègues, mais je vous le concède, c'est un changement important et pour l'équipe et pour moi-même. Je vais désormais conduire cette maîtrise avec mon style, mes idées et tous les projets que j'ai envie de défendre.
Yeah.
C'est dans un Kyrie de Nicolas Formé, compositeur baroque français un peu oublié, que l'on écoutait ici les pages et chantres du CMBV de Versailles, sous la direction d'Olivier Schnebelli. Olivier Schnebelli qui cédera donc la direction du CMBV à Fabien Armango à partir de la rentrée prochaine.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Benjamin Allard est notre invité ce soir, alors que vient de paraître le nouveau volume, le quatrième de son intégrale de l'œuvre pour clavier solo de Bach, un coffret de 3 CD célébrant les influences italiennes de Bach. Une nouvelle étape d'une grande et ambitieuse aventure musicale dans laquelle le claveciniste et organiste s'est engagé avec passion. Alors avant de parler de ce superbe volume italien, un petit point sur l'évolution de ce cycle. Combien d'années et combien d'heures de musique déjà à son actif? On écoute Benjamin Allard.
J'y suis depuis 2016, mais le nombre d'heures de musique, c'est relativement facile parce que j'ai fait 4 coffrets déjà avec 3 x 3, 9 plus 1. J'ai fait 10 disques, peut-être 12 heures à peu près, disons.
Et vous n'êtes pas encore arrivé à mi-parcours?
Pas tout à fait. Ce qui est vraiment très impressionnant pour moi aussi, parce que plus j'avance avec Alban Moreau, ingénieur du son, et Harmonia Mundi, je me dis que ça se terminera peut-être jamais, parce que c'est vraiment, l'œuvre de Bach est gigantesque. Je pense souvent à mes anciens maîtres et collègues, organistes, Marie-Claire Alain, Michel Chapuis, André Isoard, qui ont enregistré ces œuvres, mais seulement l'orgue. Et je me dis que le travail est encore plus important pour ma part. Je pense aussi aux intégrales de cantates de Bach, Arnoncourt, Léonard. C'est quelque chose qui permet de cadrer ma vie, finalement.
Et c'est toute une vie.
J'ai beaucoup de chance, en particulier en ce moment, d'avoir un tel projet à réaliser et de pouvoir le poursuivre, parce que la situation est très délicate en ce moment pour tout le monde. Mais heureusement que j'ai toujours la possibilité de le poursuivre.
Thank you.
quatrième volume de votre intégrale Bach, Benjamin Allard, est placé sous le signe de l'Italie. Elle témoigne de l'influence de la musique italienne et notamment de Vivaldi sur Jean-Sébastien Bach. Vivaldi qui inspira à Jean-Sébastien Bach des concertos pour clavier. Comment a-t-il découvert la musique italienne, Jean-Sébastien Bach ?
Alors, cette musique circulait en Europe. Il y avait plusieurs éditeurs à Amsterdam, dans les grandes villes européennes, qui éditaient les grandes œuvres de Vivaldi, en tout cas que Vivaldi avait choisi d'éditer. Parce que Vivaldi était quelqu'un d'assez public. On le qualifie et on le surnomme le prêtre roux. Mais c'est quelqu'un qui a assez tôt arrêté son engagement ecclésiastique pour diriger l'opéra et pour avoir une vie un peu entre deux. C'est-à-dire qu'il était à l'église sans y être, il utilisait un peu ces réseaux-là pour diffuser sa musique, il a énormément écrit d'opéra et il a publié une série de concertos, l'Estro Armonico, qui ont circulé dans toute l'Europe. Et Bach a eu vent de ça, puisque les princes pour qui il travaillait à Weimar étaient très friands de cette musique. Et la jouait aussi très probablement à l'orchestre. Et donc on peut imaginer que dans l'univers de Bach, il cherchait à s'approprier cette musique, mais au clavier. Aussi pour prouver que le clavier pouvait avoir un effet orchestral très important. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi différents instruments, parce que ces concertos sont pour clavecin, pour orgue ou pour clavicorde. On ne sait pas vraiment, en fait, ça n'est pas vraiment écrit. Et on peut leur donner une dimension et des couleurs extrêmement variés, suivant les choix qu'on fait. Et souvent, ces transcriptions et cette musique italienne de Vivaldi transcrite par Bach est souvent injustement méprisée. On considère que c'est de la musique de jeunesse. Et justement, on a beaucoup de couleurs à lui apporter. Il faut mettre en avant justement tout ça.
C'est un univers sonore très impressionnant. Quand vous jouez, Benjamin Allard, ces concertos au clavier, concertos qui ont été donc écrits à l'origine pour violon et pour cordes, vous arrivez à faire sortir des couleurs de votre clavecin assez extraordinaires. On sent vraiment cet univers des cordes, enfin, en tout cas un imaginaire sonore très développé.
Oui, c'est quelque chose qui est possible avec le clavecin. Il faut beaucoup d'imagination. Il faut beaucoup truquer aussi, d'une certaine manière, si je peux utiliser cette expression, truquer son jeu pour faire ressortir des choses par rapport à d'autres. Imaginez qu'un soliste à la main droite va ressortir à l'aide aussi du langage des ornements que Bach a utilisé lui-même, le langage italien, il l'a utilisé dans ses transcriptions, mais il suscite aussi chez l'interprète une certaine forme d'improvisation dans les mouvements lents, par exemple, comme c'était le cas chez Vivaldi, les violonistes improvisaient, les cadences, tout ce genre de choses étaient très 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 improvisées. Donc il y a une certaine liberté, on sent vraiment un Bach profondément libre. Bach a souvent une image de musicien très sérieux, d'église, mais on sait qu'il a composé des choses dans ces mêmes goûts de concerto, et c'est très très important d'avoir ces couleurs importantes, et j'ai utilisé notamment un instrument qui se trouve à Trévise, au musée, où il y a un jeu avec des cordes de boyau qui sonnent extrêmement doux, comme du luth. Et le mélange de ces cordes de boyau avec les cordes de métal donne un effet orchestral assez saisissant. J'ignore si Bach, enfin, on sait que Bach n'avait pas ce genre d'instrument en Thuringe ou chez lui, mais on peut imaginer qu'il n'y aurait pas été forcément insensible, puisque c'est un instrument qui a été construit par un Flamand, émigré à Rome. Donc à l'époque, l'Europe culturelle était de toute façon perméable et faite de multitudes d'influences. Donc cette liberté peut être donnée à Bach.
Et Jean-Sébastien Bach, à cette époque, Benjamin Allard, avait entre 20 et 30 ans environ, donc il était à Weimar. Il ressentait ce besoin de faire évoluer son écriture, de découverte. Est-ce que la musique de Vivaldi a joué un rôle important dans l'évolution de sa propre écriture ?
Ah, complètement. Bach a toujours été, à toute époque, une sorte d'éponge. Il a pris les influences chez d'abord ses maîtres, les membres de sa famille qui lui ont appris, et puis ensuite les maîtres du Nord, les maîtres français. Et ce monde de Vivaldi, je dirais que c'est presque le point d'orgue d'une influence à l'issue du fait qu'il a apprivoisé tout ce style. Il se développe de façon vraiment complète, en ayant assimilé un certain nombre de formes, comme le concerto, et les concertos qu'il donnera après, à Köthen par exemple, viennent vraiment de ça. Et pour le clavier, il y a relativement peu, à part les concertos transcrits d'après le violon, il y a relativement peu de musique réellement italienne, parce que c'est la musique de Bach, mais elle est composée dans ce goût. Donc oui, pour répondre à votre question, ces influences sont primordiales. Et son génie est vraiment fait et canalisé par lui, et il s'exprime, mais il prend tout ce qu'il peut trouver de beau et d'extraordinaire dans ce style italien.
La musique italienne de Bach que vous avez enregistrée, Benjamin Allard, est riche en couleurs, voire fulgurante. Ce sont des concertos, mais aussi des fantaisies et des fugues assez impressionnantes, comme cette fugue en sol mineur, BWV 542, une fugue que Bach composa, je crois, à la fin de sa période à Weimar. Dans quelle mesure l'influence italienne est représentée ici, par exemple dans cette fugue ?
Alors, il y a le thème, d'abord, qui est un thème qui ressemble beaucoup au canzona, c'est-à-dire les chansons italiennes qu'on trouve déjà chez Frescobaldi et que le jeune Bach a déjà copié quand il a été éduqué chez son frère, comme la bergamasque. Et ça, c'est déjà le style plus antique mais il en fait une fugue tout à fait développée, déjà à ce moment-là, et à un moment de sa carrière où il s'est présenté à Hambourg comme organiste, on pense qu'il a joué cette fugue pour se présenter. Et finalement, le concours était truqué, donc il n'a pas remporté ce concours. Et cette fugue a été composée d'abord seule. Elle sera ensuite la fugue d'une fantaisie que Bach va composer quand il aura perdu, malheureusement, sa première épouse. Mais le style italien et ses divertissements variés ressemblent presque à une forme de concerto. Et ses thèmes, relativement simples, faciles à chanter, c'est une petite chanson. C'est quelque chose qui vient de ces canzonas, ou de ces canciones même espagnoles. Des thèmes qu'on peut imaginer à des thèmes populaires qui sont réutilisés.
Vous avez enregistré ces pages, Benjamin Allard, au clavecin, mais aussi à l'orgue, sur un magnifique instrument à marmoutier, un orgue André Silbermann. Il y a notamment une sublime toccata, dont le deuxième mouvement, l'adagio, nous allons l'écouter tout à l'heure, est particulièrement touchant et nous fait penser justement à ces concertos de Vivaldi, au lyrisme que Vivaldi savait développer dans ses concertos, avec ce qu'on pourrait percevoir comme des pizzichetti de cordes qui accompagnent cette magnifique mélodie. On est vraiment avec cette toccata dans cette veine vivalienne.
Oui, parce que Bach, évidemment, utilise l'orgue dans cette toccata adagio et fugue, mais c'est une sorte de petit concerto joué à l'orgue avec différents plans sonores, un solo de pédalier au début. Mais dans cet adagio, plus précisément, Bach suggère vraiment dans son écriture, comme vous le dites, les pizzicati, ce qui est possible avec l'acoustique d'une église et la manière de jouer court, d'articuler des tuyaux très graves, on peut obtenir cet effet de pizzicato et se cantabiler à la main droite avec des ornements, avec des instruments comme les jeux de principaux ou jeux de montres qui se trouvent en façade des orgues, qui donne l'illusion qu'on joue vraiment des cordes. Il y a un matériau et une texture sonore qui est extrêmement parlante. Ce qui est assez curieux quand on parle d'orgue, puisque l'orgue, par définition, est un son qui n'est pas vivant, puisque quand on appuie sur la touche, l'air entre dans le tuyau, et puis quand on cesse d'alimenter le tuyau, ça cesse. Mais avec l'acoustique et la durée des sons, et encore une fois les ornements, on peut donner une vie à ces sons, et c'est ce qui est extraordinaire dans l'orgue.
Voilà, et cet adagio est une pure merveille. En tout cas, c'est un magnifique coffret qui vient de paraître. Quatrième de votre intégrale de l'œuvre pour clavier solo de Bach. Quelques concerts tout de même, puisque vous faites partie, Benjamin Allard, de ces rares musiciens qui arrivent à donner quelques concerts devant du public. Pour cela, il faut aller en Espagne. Vous étiez à Barcelone récemment et vous retournerez en Espagne à Madrid le 2 février pour un récital.
Tout à fait, pour le premier récital d'une assez longue série de 8 concerts consacrés à toute la musique édité du vivant de Bach, c'est-à-dire les partitas, Klavierübung 2, concerto italien, la messe luthérienne pour orgue et les variations Goldberg. C'est une série qui aura lieu sur une durée à peu près d'un an et demi.
Voilà, donc vous avez la chance d'avoir du public. Vous ressentez cette chance et cette saveur particulière d'un artiste qui peut percevoir le ressenti de ses auditeurs en ce moment. Enfin, ça paraît incroyable de dire ça aujourd'hui.
Oui, c'est une chance immense. J'ai eu évidemment une grande joie à rejouer à Barcelone parce que c'était pratiquement le dernier concert d'une résidence de 8 ans. Et j'ai senti évidemment cette joie, mais aussi j'ai goûté ce moment, j'étais même presque un peu déconcentré, comme si j'avais un peu perdu l'habitude. Et parfois, je ne savais plus très bien où j'étais, mais il y avait un enthousiasme qui m'a vraiment sauvé. Et je pense que le public a besoin de ça aussi. C'est comme si on avait, d'une certaine manière, besoin de rééduquer l'écoute du public qui, par tous ses biais, évidemment, de radio et d'enregistrement, ont pu toujours avoir accès à la musique, mais rien ne remplacera jamais le fait de faire la musique et de jouer pour un public qui soit peu nombreux, qui soit nombreux, qui soit très nombreux. Ça n'a aucune importance, mais que les gens soient là, ça c'est vraiment très important.
Et puis en tant qu'organiste, vous continuez à jouer régulièrement puisque les lieux de culte sont ouverts.
C'est aussi une chance et puis une façon de pouvoir faire de la musique. Des gens qui ne viennent pas forcément au service, parfois, me demandent s'ils peuvent venir entendre la musique. Et c'est aussi une expérience spirituelle ou pas. Je trouve que la musique a sa place dans le culte. Elle contribue au culte, mais c'est aussi très important qu'elle soit au service d'elle-même aussi.
Voilà, donc vous êtes un musicien qui continue à jouer directement pour les autres et vous venez de nous offrir Benjamin Allard, le 4e volume de cette magnifique danse riche, ambitieuse, courageuse, je ne sais pas quel qualificatif pour la décrire, intégrale de l'œuvre pour clavier solo de Jean-Sébastien Bach, donc ce 4e volume qui réunit 3 CD aux couleurs italiennes. Merci beaucoup Benjamin Allard d'être passé nous voir.
Merci beaucoup Lormaison, merci.
L'envoûtante Adagio de la toccata BWV 564 de Jean-Sébastien Bach par Benjamin Allard sur l'orgue Silbermann de l'abbaye Saint-Étienne de Marmoutier. Un nouvel extrait de ce 4e volume à la Veneziana de l'intégrale Bach de Benjamin Allard publié par Harmonia Mundi. Le cinquième volume sera consacré à la fin de la période de Weimar et inclura notamment la célébrissime toccata et fugue en ré mineur. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Didier de Cotigny, le directeur général de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'un des rares orchestres au monde à jouer encore devant du public. Très belle soirée à tous, à l'écoute de Radio Classique, une soirée qui se prolonge en musique.